Chamala. Aime-moi comme tu le veux, comme tu le sens, comme tu veux amour. Alana, yé, 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 Alita,
Gigi Palmi.
Aime-moi, Chamala.
Radio de la paix, il est 12h. Journal de midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. À la une de cette édition de la mi-journée, lancement officiel de la campagne mondiale Zone Afrique de la sécurité routière ce week-end à Boaké. Le ministre Amadou Koné exhorte au changement de mentalité. À San Pedro, les éleveurs des ruminants ont été formés aux notions de base sur la reconnaissance des maladies animales, une initiative du ministère de tutelle qui vise à répondre aux risques sanitaires. Et puis en Centrafrique, l'un des leaders de l'opposition, Maître Crépambo Lingumba, a été arrêté dimanche 3 mars. Il s'était plaint du système judiciaire centrafricain. L'invité de la rédaction ce lundi est Dr Blé Pierre Norlander, président de la concertation interpartie pour les élections démocratiques en Côte d'Ivoire, la CIED. Interrogé par Junior Cardin, il reviendra sur une récente rencontre au profit des partis politiques, rencontre relative au découpage et au parrainage électoral. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, a exhorté au changement de mentalité afin d'éradiquer l'incivisme routier et les fausses croyances africaines qui, selon lui, sont des facteurs aggravants de l'insécurité routière en Afrique. Il a fait savoir lors du lancement officiel de la campagne mondiale Zone Afrique de la sécurité routière, c'était le samedi 2 mars dernier à Boaké, pour le ministre Amadou Koné, si certaines personnes considèrent que mourir est un acte normal, d'autres compteraient sur une bague protectrice ou un gris-gris qui les mettrait hors de tout danger, les accidents de la circulation y compris. Et donc, prenant au mot les chiffres de l'OMS, le ministre Amadou Koné a noté que plus de 60% des décès sur les routes ivoiriennes concernent les usagers de 2 et 3 roues. Il a salué donc l'initiative des Nations Unies, dont l'envoyé spécial pour la sécurité routière Jean Todd était présent sur place à Boaké. Et puis parlons du programme Cordial. Eh bien, c'est une initiative soutenue par le gouvernement américain à travers l'Agence américaine pour le développement international et mis en œuvre par le National Democratic Institute, et ce en partenariat avec les communautés ouverte par le programme l'ONG Action Psychologie Côte d'Ivoire, la concertation interpartie pour les élections et la démocratie. Et ce programme bénéficie également du soutien institutionnel du ministère de la Cohésion nationale. Il a été lancé le 29 février dernier. Mata Touré nous en dit plus.
En partant du postulat de base qu'au cours des dernières décennies, la polarisation du débat et des pratiques politiques et de violence qui en ont découlé ont mis à mal la cohabitation en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les initiateurs de ce programme Cordial l'ont conçu pour contribuer à la cicatrisation des blessures. Issiaka Ouattara est le chef adjoint du projet.
C'est un projet qui vise à travailler sur deux composantes essentielles, le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles des structures locales de paix. Nous travaillons à renforcer les plateformes de dialogue entre les partis politiques au niveau local.
Pour sa part, Miss Belmonte Dogo, ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a encouragé une telle initiative dans la perspective d'avoir un pays en paix pour les élections de 2025.
Il vient à propos au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à démarrer cette année un nouveau processus électoral dont la première échéance sera l'élection du président de la République en 2025. Le lancement officiel de Cordial se fait également à quelques jours des activités de la cohésion nationale autour du thème « Agis toutes et tous pour le renforcement de la culture démocratique, la prévention et la gestion pacifique des conflits ».
Notons que le programme Cordial se base sur l'approche people to people qui privilégie le raffermissement des relations interpersonnelles de personne à personne pour reconstruire une relation brisée du fait d'un conflit ou d'une violence, des efforts inclusifs et durables de réconciliation.
Sécurité et santé au travail. L'Organisation internationale du travail a organisé un atelier d'imprégnation et d'orientation des acteurs du secteur de la foresterie et du bois en Côte d'Ivoire. Cet atelier d'une journée qui a concerné les points focaux désignés sur une base tripartite, travailleurs, employeurs et gouvernement, s'est déroulé au siège de l'Union des entreprises agricoles et forestières d'Abidjan le 28 février dernier. Sur l'importance de ces réflexions, écoutons Jenny Naouni, représentant le directeur pays de l'OIT.
En Côte d'Ivoire, le secteur de la foresterie joue un rôle majeur dans le développement économique. Toutefois, cela ne doit pas nous faire perdre de vue que la foresterie se caractérise par des conditions de travail particulières et des lieux de travail souvent temporaires et dispersés. Les travaux forestiers se déroulent dans des conditions climatiques, topographiques et biologiques particulières qui ont forcément des répercussions sur la situation sociale et le bien-être des travailleurs. La question du travail décent se pose donc avec une profonde acuité. Le fait même que l'on adresse cette question aujourd'hui traduit tout le mérite des initiateurs de cet atelier, en l'occurrence les points focaux de la Côte d'Ivoire pour la promotion de la déclaration sur les entreprises multinationales, qui par leur excellente collaboration se présente comme l'une des plus belles illustrations de l'un des piliers du travail décent, en l'occurrence le dialogue social. La sécurité des travailleurs et des lieux de travail dans la foresterie exige une implication de tous les mandants, travailleurs, employeurs et gouvernements, qui doivent nécessairement entretenir un dialogue social efficace autour de la question, dans le but de faire progresser le travail décent et durable. C'est d'ailleurs ce qu'encourage la déclaration sur les entreprises multinationales, dont les points focaux entendent faire la promotion par cette activité.
Vous écoutiez Jenny Naouni qui représentait le directeur pays de l'OIT, l'Organisation internationale de travail, à cet atelier des acteurs du secteur de la foresterie et du bois en Côte d'Ivoire. Autre sujet à présent, parlons célébration de la 34e journée de la protection civile en Côte d'Ivoire autour du thème « Les technologies innovantes au service de la protection civile ». À Mans, le 1er mars dernier, les populations ont pris d'assaut l'enceinte de la préfecture pour marquer toute leur reconnaissance aux efforts consentis par les acteurs de la protection civile en faveur des populations. Stéphane Adams pour le compte-rendu.
Les technologies innovantes au service de la protection civile. C'est le thème qui a réuni acteurs du feu et population dans l'enceinte de la préfecture de Mans. Le directeur général de l'Office national de la protection civile, Amankou Kassi, revient sur les motivations de ce sujet.
Les drones, les satellites, les capteurs intelligents, la technologie 3D, les systèmes d'information géographique, l'Internet des personnes et des objets, l'intelligence artificielle sont autant d'outils que les acteurs de la protection civile peuvent exploiter.
Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, de relever ceci.
À notre prise de service, la Côte d'Ivoire disposait de 31 centres de secours. Aujourd'hui, nous en sommes à 38 qui sont parfaitement fonctionnels. Et l'aventure ne va pas s'arrêter à ces chiffres, car très bientôt, les centres de secours de Danané et de Biakouma vont voir le jour et seront équipés pour rapprocher des populations les secours nécessaires.
Amadou Koulibaly, le représentant du Premier ministre, a exhorter l'ensemble des acteurs de la protection civile en ces termes.
Comment mettre les populations à l'abri des catastrophes? Que le chef de l'État met l'humain, met tous les habitants de la Côte d'Ivoire au centre de ses préoccupations majeures.
L'avis d'un participant en fin de cérémonie.
Ben André, nous sommes heureux. L'attente que les promesses faites par le ministre de la Sécurité a dit que Danané sera doté de centres, bien comme aussi, que ça soit fait le plus rapidement possible pour que en tout cas les vies humaines soient encore sauvées.
Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Parlons toujours de la 34e journée de la protection civile, cette fois à Divo. Le préfet de Lakota, Kone Lassina, qui présidait cette cérémonie, a demandé aux usagers de la route de céder impérativement le passage aux ambulances des pompiers. Il a exhorté les collectivités territoriales locales à faire face à l'équipement du centre de protection civile de Divo pour le rendre davantage opérationnel. On écoute le reportage de Abel César Cassin à cet effet.
Selon le chef du centre de protection civile de Divo, le lieutenant Acta Kobela Ernest, l'étendue du champ d'intervention de ce centre, Divo, Guitry, Iré et Lakota, induit des besoins à combler.
Pour que nous puissions être prompts face aux différentes situations, il faut que nous ayons une couverture totale du réseau de communication au sein du centre de protection civile. Nous suggérons aussi avoir une certaine proximité auprès de la population, à savoir la création des centres de secours de proximité à Guitry et à Lakota. De notre position ici, nous sommes à 49 km de Guitry et à 36 km de Lakota. Pour un incendie, le temps est un peu long pour pouvoir circonscrire un feu.
Le préfet de Lakota, Kone Lassina, qui présidait cette cérémonie en qualité d'intérimaire de préfet de région, fait deux observations majeures.
J'interpelle les collectivités territoriales, savoir le maire, le conseil régional, que éventuellement ils se penchent sur la dotation en moyens suffisants. Centre de protection civile, il y a également le problème de l'incivisme. Chaque fois que vous voyez une ambulance, vous laissez la voie libre à l'ambulance.
Le club des secouristes du lycée Assama, créé depuis 5 points, était à l'honneur. De belles démonstrations faites par les membres de ce club ont coloré cette journée qui avait pour thème les technologies innovantes au service de la protection civile. De Divo Abel César Cassin, Radio de la Paix.
À l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques et en collaboration avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il a été mis en place des groupements de défense sanitaire dans la filière des ruminants à San Pedro. Les éleveurs de la cité balnéaire ont été formés aux notions de base sur la reconnaissance des maladies animales. Des détails avec Ophi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
Apporter une réponse aux risques sanitaires dans les élevages implique renforcer les capacités des éleveurs, selon Dongo Ami, représentante de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
L'émergence ces dernières années des épizooties telles que la fièvre aphteuse, la COVID-19, a mis en évidence l'insuffisance de la maîtrise des risques sanitaires dans la plupart des élevages. C'est pourquoi la FAO et l'USAID se tiennent aux côtés de la direction des services vétérinaires pour mettre en place des groupements de défense sanitaire afin de contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire de nos différents cheptels.
Le formateur docteur vétérinaire Nguessan à son volontaire former les éleveurs, c'est assurer une sécurité des animaux mais également des hommes.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très dépendante de l'importation des pays voisins comme le Mali et le Burkina et je pense que c'est le moment de nous pencher sur la question de l'élevage. Nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de maladies et les éleveurs ne maîtrisent pas tous les contours de l'élevage, raison pour laquelle nous venons le constituer en groupement de défense sanitaire. Leur rôle principal, c'est d'observer les signes et symptômes qu'il y a dans les élevages et les notifier aux vétérinaires privés.
Une formation bien appréciée par les éleveurs avec le témoignage de leur président, Dramera Amoy.
Pour rentrer même dans un frame, il faut te protéger d'abord avant de rentrer. On est dans l'Afrique, on ne calcule pas tout ça là. Il y a des animaux, on prend dans la camion des abattoirs, on s'en va chez nous, on dépose. C'est malade, il n'est pas malade, on s'en fout. Une semaine après, il est tombé malade. Et puis aujourd'hui, on connaît ça. Donc ça nous donne beaucoup de conseils.
Ces éleveurs formés auront pour mission d'être des relais au plan local. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Dans le Bunkani, les autorités gouvernementales régionales et les partenaires clés du projet Renforcer la résilience aux risques liés au changement pour la paix et la stabilité socio-économique dans le nord-est de la Côte d'Ivoire ont eu leurs compétences renforcées au cours d'un atelier la semaine dernière organisé par l'OIM et le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Écoutons donc Sylia Allé, le gestionnaire du partenariat entre le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Union européenne sur le changement climatique, bien sûr sur le choix de la région du Bunkani.
Les objectifs du projet sont de renforcer la résilience des populations locales au changement climatique et aux impacts de ce changement climatique sur la stabilité socio-économique ici, sur les moyens de survie des populations, sur la sécurité alimentaire et puis sur les conflits aussi qu'on voit émerger liés à la concurrence pour l'eau, par exemple, entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on vient appuyer aujourd'hui.
Et pourquoi des choix spécifiques de la région de Bouna?
Parce que la région est déjà très fortement impactée par le changement climatique. On voit aujourd'hui, il y a déjà une augmentation des températures très sensibles, une diminution des pluies ou une variabilité des pluies. Et ces impacts ont déjà vraiment des conséquences importantes pour la stabilité à l'heure actuelle. Donc on va se focaliser là dans la région du Bunkani et puis pour ensuite travailler plus précisément dans les communautés frontalières du Burkina Faso, donc notamment dans les départements de Tieni et d'Oropo.
C'était à l'instant Sylia Allé du Programme des Nations Unies pour l'environnement, dans des propos recueillis par Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bunkani. Hier dimanche 3 mars, Crépin-Mboli Gumba, l'un des leaders de l'opposition centrafricaine, a été arrêté à l'aéroport de Bangui alors qu'il s'apprêtait à voyager pour le Cameroun. Il effectuait donc les formalités aéroportuaires quand lui et son épouse ont été interpellés par des éléments des forces de l'ordre. Un flou demeure sur le motif de son arrestation, mais environ 10 jours auparavant, cet avocat du barreau de Centrafrique s'en était pris à la justice, affirmant que celle-ci était corrompue jusqu'au plus au sommet de la hiérarchie. Crépin-Mboli Gumba avait également dénoncé la mainmise du ministre de la Justice sur le travail des acteurs judiciaires. Et puis de retour en Côte d'Ivoire, dernière articulation de cette édition, l'invité de la rédaction ce jour, il s'agit du président de la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, la CIED. Docteur Blé-Pierre Norlander revient sur les contours d'une formation initiée récemment au profit des partis politiques sur le découpage et le parrainage électoral en prévision du prochain cycle électoral. Il répond aux questions de Junior Cardin.
Docteur Blé Norlander, bonjour.
Bonjour.
Docteur Blé, on apprend que la CIED forme les partis politiques sur le découpage et le parrainage électoral. Qu'est-ce qui justifie cette initiative?
Nous allons bientôt en 2025 pour les élections présidentielles. En 2026-2028, on a un nouveau cycle électoral. Et donc, il faut éviter que nous ayons de la violence pendant ces joutes électorales. Parce que par le passé, nous avons vécu certaines choses qui n'ont pas été agréables. Et maintenant que nous sommes en train d'être en phase avec les acquis de la paix, il faut maintenir ce climat-là pour que nous puissions avoir des élections sans violence et sans heurts.
Parlons donc de découpage. Est-ce qu'un problème spécifique existe à ce niveau?
Oui, il y a un déséquilibre parce que après plusieurs constats, il y a des zones où, par exemple, nous avons, pour le même nombre d'habitants, différents nombres de sièges. Et ça, il faut réparer. Par exemple, si dans une région donnée X, on a 100 000 habitants avec deux députés, on ne leur dira pas d'enlever les deux députés. Mais là où on a 100 000 habitants avec un député, il faut seulement ajouter un autre pour que l'équilibre soit fait. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Ce sont ces genres de problèmes que nous avons dans certains endroits.
Oui, en ce qui concerne les parrainages.
Les parrainages, vraiment, ça a été une nouvelle expérience en 2020. Pour la première fois après le dialogue politique, ça a été accordé. Mais je vous assure que beaucoup n'ont pas été à l'aise avec le parrainage parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Donc, il faut aussi, bien avant les élections, donner les leviers à nos partis politiques pour qu'ils puissent s'approprier le parrainage ou alors nous accorder sur le fait de le supprimer ou bien de le maintenir. Bon, parce que ça a engendré aussi des situations que nous n'avons pas pu gérer comme il se devait. Donc, il y a eu beaucoup de...
Et donc, vous êtes sur le point de corriger ces anomalies?
Non, je n'appelle pas ça anomalie. Bon, c'est des choses qu'il faut rectifier, si c'est possible. Hein. Ça, nous faisons des propositions parce que notre devoir, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence en Côte d'Ivoire pendant les joutes électorales. D'accord. Et donc, l'objectif principal, c'est de corriger certaines actions avec des propositions qui vont être faites par l'accord des partis politiques et du gouvernement aussi pour que les choses soient bien équilibrées et que nos élections se fasse sans problème.
Et donc la formation concerne ces deux sujets principaux, le découpage et le parrainage. Et quelle est la réaction des partis politiques quand on sort de ces formations?
Oui, ils ont bien accueilli ces deux formations parce que beaucoup ne savaient pas qu'est-ce qui entrait en jeu pour un découpage et aussi pour un parrainage. Donc notre formateur leur a donné vraiment les outils pour qu'ils comprennent mieux et beaucoup étaient satisfaits sur le plan du découpage. Seulement que ceux qui remettaient ça en cause ont dû comprendre pourquoi il fallait aussi accepter que nous allions avec un découpage, mais pas celui que nous préférons forcément. Je veux dire que d'autres ont compris, mais il y a eu quand même des réactions diverses. La plupart des réactions voulaient qu'on fasse un découpage équilibré.
Le gouvernement était-il présent quelquefois à ces formations?
Non, pas le gouvernement. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser et former les partis politiques dans un premier temps. Et ces recommandations faites à ces formations-là vont être proposées au gouvernement. C'est nous qui allons rapporter ça.
Et à quel moment vous allez rapporter ces propositions au gouvernement?
Dans les jours qui viennent. Et nous allons prendre 2 à 3 formations avant de faire les dépôts de rapports sur la table de la CEI et la table du ministère de l'Intérieur.
Les différents partis politiques qui font du découpage électoral leur principal cheval de bataille peuvent donc espérer que quelque chose peut être fait à ce niveau?
Moi, je pense que nous voulons harmoniser les choses en Côte d'Ivoire, préserver les acquis de paix. Et donc, il serait bien que nos élections aussi se passent sans violence. Et donc, je pense qu'il faut d'abord proposer. On s'assoit, on travaille, comme nous le faisons avec les formations. Et après ces propositions-là, des recommandations vont être faites au gouvernement et à la suite, c'est à eux de voir. Bon, ben, il peut y avoir un changement, mais s'ils pensent que ce n'est pas opportun, bon, ben, peut-être qu'on dira avec le même découpage.
Et pendant ce temps, qu'est-ce que la CIED a comme message aux partis politiques, au gouvernement et à la CEI?
C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible à travers nos lois et à travers aussi les problèmes que nous réglons. Il faut qu'on évite des palabres, des violences dans les élections. Pour la CEI, par exemple, je souhaiterais qu'elle fasse des propositions au gouvernement en écoutant d'abord tous les partis et aussi au gouvernement. Nous demandons d'accepter les propositions que la CEI fera après écoute des partis politiques. Donc, dans un premier temps, je souhaite que le processus électoral de 2025 à 2028 soit un processus qui ne soit pas écorché parce que nous aurons, avec le gouvernement, la CEI, travaillé sur des principes d'équité qui permettront à chacun d'aller à des élections sans heurts.
Docteur Blé Norlander, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
C'était Docteur Blé Pierre Norlander, président de la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions de Junior Cardin. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Lancement officiel de la campagne mondiale Zone Afrique de la sécurité routière ce week-end à Boaké. Le ministre des Transports, Amadou Koné, exhorte au changement de mentalité. Et puis à San Pedro, les éleveurs des ruminants ont été formés aux notions de base sur la reconnaissance des maladies animales, une initiative du ministère de tutelle qui vise à mieux traiter les animaux et surtout éviter les risques sanitaires. En Centrafrique, l'un des leaders de l'opposition, Maître Crépin Mboligumba, a été arrêté dimanche 3 mars. Il s'était plaint récemment du système judiciaire centrafricain. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit avec Francis Cassis dans la revue de presse.
Bonjour à tous. Ouvrons notre examen de vos journaux de